C'était le vendredi 8 mai 2026 au monastère des communautés bénédictines à Urth. Les amis de Belloc organisaient une rencontre publique autour de la pensée sociale chrétienne. Nous vous proposons d'entendre quelques extraits de cette rencontre, avec notamment quelques réflexions autour de la doctrine sociale de l'Église, mais aussi le portrait d'un entrepreneur qui va être béatifié par le pape Léon XIV, Enrique Ernestocho.
La doctrine sociale de l'Église, je voudrais vous faire un rappel historique, l'origine, et puis je vais dire de Léon XIII à Léon XIV, pour parler simple. La doctrine sociale de l'Église telle qu'elle existe, elle date de l'encyclique Rerum Novarum, 1891, du pape Léon XIII. C'était une période extrêmement particulière et Léon XIII était un personnage également très singulier. C'est une période, la fin du XIXe siècle, que l'on a un peu oubliée. C'est l'époque de l'industrialisation, c'est l'époque de ce qu'on aurait appelé aujourd'hui des nouvelles technologies, de l'électricité en passant par le télégramme, par toute une série d'inventions technologiques. Par exemple, on parle aujourd'hui de la compression du temps. Il faut savoir que c'est les périodes que vécu Léon XIII où un message qui partait de Londres pour aller à Calcutta, capitale de l'Empire des Indes, il fallait 3 mois. Et pour atteindre l'Australie ou pour atteindre la Nouvelle-Zélande, il fallait 6 mois. Or, avec les dernières inventions, il fallait que quelques heures pour que les mêmes renseignements soient transmis. Léon XIII vécut cette période-là. C'était une période également d'agitation idéologique. C'est l'apparition du marxisme. C'est l'apparition du libéralisme tel qu'il s'est développé depuis, qu'il soit parlementaire ou économique. C'est également l'apparition des doctrines totalitaires, que l'on pense au fascisme, au nazisme, etc. C'est également l'apparition de l'industrialisation avec ce qu'elle avait d'horrible. C'est quand même la période des enfants qui travaillaient à partir de 6, 7, 8 ans dans les mines, le textile, etc. Léon XIII est un personnage singulier. Il vient de la petite bourgeoisie dite vaticane, c'est-à-dire habitant Rome et servant dans la fonction publique du Vatican. Personnage un peu particulier, nommé nonce à Bruxelles, qui venait d'être un pays, la Belgique venait d'accéder à l'indépendance, et était à l'époque, on l'a oublié, une des régions les plus industrialisées de toute l'Europe, avec le bassin de Londres. Enfin, pas le bassin de Londres, le bassin de Manchester, dans le nord de l'Angleterre. C'était quelque chose de très particulier parce que Léon XIII a découvert la condition ouvrière là-bas. Le travail de 12, 14, 15 heures dans les mines, les accidents du travail, les maladies professionnelles qui n'étaient pas couvertes par aucune assurance sociale à l'époque. Et cet homme, qui n'était pas du tout prédisposé à cet univers-là, a découvert ce que c'était que la misère humaine. D'où son approche très particulière par rapport à ses prédécesseurs, en se disant « l'Église ne peut pas être absente de ces grands courants de pensée, de ces grands mouvements industriels, de ces grands mouvements techniques et sociaux qui sont en train de se développer. » Ça a donné Rerum Novarum, qui a été la première encyclique dans laquelle on a parlé délibérément du respect de la dignité humaine, le respect du travail, du respect de la libre entreprise, le respect du bien commun, etc. etc. Ça a été vraiment novateur. La doctrine sociale de l'Église, c'est ensuite, après Léon XIII, a été systématiquement abondée, je dirais, dans ses réflexions, par tous les papes qui se sont succédés. La mise en forme de la doctrine sociale de l'Église, sous sa forme telle qu'on l'appelle, des doctrines sociales de l'Église, qui a fait l'objet d'un document que j'ai là, mais que je ne vous montrerai pas parce qu'il est épais comme ça, qui s'appelle le Compendium. C'est un recueil, synthèse, résumé de tout ce que l'Église a, pour bien le dire, promu systématiquement dans les divers domaines que sont la famille, le travail, la politique, la paix, etc. etc. Ce document cette synthèse a été faite à la demande, on en parle très peu, mais avait été faite à la demande de Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II avait pris conscience de la diffusion et de la parcellisation de toutes les interventions de l'Église dans ces différents domaines qui font la vie d'une société. Et il avait demandé à un groupe du Vatican, qui s'appelle le Conseil Justice et Paix, de rassembler toutes les encycliques, tous les documents, quels qu'ils soient, venant aussi bien du Secours catholique que des ordres monastiques, etc., qui traitaient des sujets liés à ce qu'il appelait, lui, la doctrine sociale de l'Église. Alors ce document, le compendium, il faut le savoir, est un document de travail puisqu'il avait été établi par la demande de Jean-Paul II à destination des évêques, qui étaient les destinataires et qui devaient mettre en œuvre ce qui était proposé dans ce compendium, c'est-à-dire en fait cette synthèse de la doctrine sociale de l'Église. Donc, Rerum Novarum, c'est une forme, je dirais, d'aggiornamento, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de mise à jour de la position de l'Église par rapport à l'évolution des sociétés telles qu'elles se dessinaient. Sociétés d'ancien régime, passage des sociétés qui venaient sur le plan politique, de la monarchie à la République, qui venaient également sur le plan économique du passage de mode d'organisation institutionnelle qui relevait encore pour beaucoup du droit féodal à un droit qui était un droit, je dirais, issu quand même de vote populaire, populaire dans certains cas, et issu quand même de la société civile dans de nombreux cas quand il s'agissait de républiques comme la France, par exemple. L'actualisation s'est faite ensuite par des textes importants. Benoît XVI, ça a été Caritas in Veritatis, société globalisée, évangélisation dans la mondialisation et surtout retour au thème de la pauvreté. C'est une chose dont on a beaucoup oublié. On a beaucoup insisté sur le caractère conservateur de Benoît XVI en matière d'évolution des mœurs. C'était un homme, dans cette encyclique, sur lequel il prenait position très nettement sur le fait qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi en économie et que la mondialisation telle qu'elle se dessinait n'était pas forcément bénéfique pour tous. Il y a eu ensuite François avec Laudato Si. Laudato Si est un texte fondateur, vous le savez tous. C'est un texte qui a été reçu non seulement dans les milieux chrétiens, mais même dans des milieux athées, matérialistes, compte tenu de sa profondeur et des enjeux qu'il portait. Il y a enfin, et de Léon à Léon, je vais arriver à Léon XIV. Je voudrais insister sur Léon XIV parce que le premier texte qu'il a produit, qui s'appelle « Dilexité », c'est la place des pauvres, on y revient, au cœur de la société chrétienne. Et c'est une exhortation à la charité. Il était donc dans la droite ligne là, de Laudato Si, et ensuite, je pense, sur un texte qui avait été vraisemblablement préparé aussi conjointement avec François. Il y a donc une continuité. Je voudrais insister un petit peu sur Léon XIV parce que c'est la même chose que Léon XIII. Nous vivons une société de mutations profondes, comme l'a été la société de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Mutation dans les mœurs, mutation également dans les technologies qui sont de plus en plus, j'allais dire, agressives vis-à-vis des conceptions qu'on peut avoir d'un humanisme courant. J'aurais du mal à le dire simplement, mais nous vivons une société dans laquelle la mutation met en jeu, très clairement, l'anthropologie chrétienne. Je veux dire par là que quand on sait que des dizaines de milliards de dollars sont aujourd'hui investis par des grandes sociétés, des personnages que l'on nous présente comme fabuleux, dans des expériences qui sont liées à la transhumanité, qui sont liées également à la biotechnologie et à la manipulation génétique, on est en droit de se poser des questions. Et en ce sens, le voyage de Léon XIV en Afrique est très intéressant. Il est très intéressant parce que pour son premier voyage, il a choisi l'Afrique. Il avait pris Monaco avant, hein, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, Monaco, on ne peut pas dire quand même que ça soit un reflet du monde. Ceci dit, à Monaco, il avait quand même mis déjà le pied dans la porte, entre le chambranle et la porte, en disant que les riches ne devaient pas oublier les pauvres. Le faire à Monaco, je trouvais que c'était pas mal quand même. L'Afrique, pourquoi ? Quand on réfléchit à ce que représente l'Afrique, aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne, donc, comme l'on dit aujourd'hui, l'Afrique noire, pour parler clair, un habitant sur 5 aujourd'hui, ça fait, je crois que c'est, presque 20%, habite l'Afrique noire. En 2050, ça sera 1 sur 4. Et en 2100, compte tenu des projections démographiques actuelles, ça sera 1 sur 3. Il y a aujourd'hui plus de catholiques en Afrique noire qu'en Europe occidentale. On peut déjà mieux comprendre le voyage de Léon XIV dans un continent dont on a souvent sous-estimé l'importance. Il a abordé dans ses voyages des thèmes très importants, fondamentaux que l'on retrouve tout au long de la doctrine sociale de l'Église et des différentes encycliques, et il l'a fait là-bas au fur et à mesure de sa progression à travers le continent noir. Il est allé donc en Angola, il est allé au Cameroun, il est allé en Guinée équatoriale, et puis il est allé aussi, il a commencé par l'Algérie. Le premier point qu'il a abordé, ça a été partout le problème des élites et de leur corruption. Il en a parlé. Il a parlé également du danger que représentait l'exploitation à outrance des matières premières de l'Afrique noire, avec la mainmise sur des pans entiers de l'économie africaine par des grandes sociétés, qu'elles soient européennes, américaines, chinoises. Pour l'Africain, vous savez, quel que soit le drapeau qu'il y a derrière, quand on travaille dans une mine à 14 ans ou à 13 ans, on a... pour recueillir des matières dans des conditions inhumaines. Hein. Les conditions de travail qui, en Afrique, d'une certaine partie de la population, sont celles que nous avions, nous, au XIXe siècle, dans nos pays européens. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas ces gens-là, personne d'entre nous n'aurait un smartphone ou un iPhone. Hein. Il faut le savoir. Toutes les matières premières viennent de là, quasiment. Le lithium, le coltan et compagnie. Il a également parlé d'une chose que je trouve assez intéressante. Quand il a été en Angola, il est allé à l'université catholique d'Angola, et là il a mis en garde les étudiants sur justement l'attrait que pouvaient avoir les nouvelles technologies, et notamment les technologies des télécommunications, sur une certaine modernité. Là aussi, c'est lié à la connaissance que le Vatican a de la situation de l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 66% des gens en Afrique qui ont un smartphone ou un iPhone, qui fonctionne très très bien, plus ou moins bien, mais enfin, en général, assez bien, qui permet de faire des transferts d'argent également depuis les métropoles, comme la France, vers la famille qui est restée en brousse. Tout ça... Mais parallèlement à ça, il y a encore les deux tiers des Africains qui n'ont pas assez à l'électricité, qui n'ont pas assez à l'eau courante, qui n'ont pas assez aux sanitaires, qui ont faim, et quand ils ne meurent pas de faim, parce qu'il y a des famines. Il a mis en garde donc ses étudiants sur le mirage que pouvaient représenter certains déploiements technologiques qui ne prennent pas en compte les besoins essentiels de la vie. Je pense que c'est très fort, c'est très important, et ça nécessite également de se pencher sur le deuxième point qu'il a abordé, celui du problème de la paix. Il a parlé de la paix tout au long de son discours. La paix fait partie de la doctrine sociale de l'Église, et notamment du droit de la guerre, puisque vous le savez, il y a dans la théologie tout un pan très important qui traite non seulement de la paix armée, mais de la guerre en tant que telle, sous une appellation que j'aime pas trop, qu'on appelle la guerre juste. Je suis assez réservé sur la mesure, je pense pas qu'il y ait de guerre juste. Mais bon, c'est la formule qui est employée. Léon XIV se connaît certainement beaucoup mieux que moi la théologie qui est associée à ce thème de la guerre juste. Dans la doctrine sociale de l'Église, la violence est systématiquement condamnée, conformément à l'Évangile. Elle est systématiquement condamnée et la solution toujours recherchée dans les conflits, depuis les conflits sociaux aux conflits politiques, c'est la négociation, c'est le dialogue. L'Église n'admet la violence et la guerre que dans le cas de la guerre défensive, c'est-à-dire quand vous êtes agressé, que votre vie est en jeu ou celle des vôtres est en jeu, et là, l'Église admet, ne recommande pas, hein, mais l'Église admet que la violence peut être exercée par celui qui est victime. En aucun cas, elle n'est justifiée par une offensive. Jamais. Jamais. Donc quand on vient vous dire que le meilleur moyen de se défendre, c'est l'attaque, c'est tout à fait contraire à l'esprit de la doctrine sociale de l'Église en la matière. Léon XIV a parlé de la paix tout au long. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez aujourd'hui une carte de l'Afrique, du Sahel, au Soudan Sud, en guerre civile permanente, en Éthiopie, où il y a une guerre civile, au Congo, où tout l'est du Congo, qui jouxte le Rwanda, le Burundi, etc., est en proie à des massacres qui ont lieu tous les jours, etc., l'appel à la paix était certainement lié aussi à la situation internationale telle que nous la connaissons aujourd'hui à travers l'Ukraine, à travers également les événements plus que déplorables qui se passent aujourd'hui en Iran et d'ailleurs dans tout le Moyen-Orient, mais aussi l'Afrique, qu'on oublie souvent. On oublie souvent, mais la guerre en Afrique est perpétuelle. C'est-à-dire, je veux dire que depuis la fin de la colonisation, certaines régions de l'Afrique n'ont pas connu la paix, jamais. De l'Angola, qui a vécu une guerre civile de 30 ans. C'est la raison pour laquelle il a parlé de la paix aussi en Angola. Il a parlé aussi des matières premières. Quand on déplore la corruption en Guinée équatoriale, qui est un mini-pays pétrolier, on s'attaque directement, qu'on le veuille ou non, à la manne pétrolière et à derrière aux exploitations qui peut en être faites. Donc de Léon XIII à Léon XIV, on a la même chose. C'est-à-dire que des papes, qui avec François d'abord, mais aujourd'hui maintenant, des papes qui ont conscience qu'à un moment donné, il faut que l'Église parle fort. Je pense que la prochaine, je vais terminer là-dessus, la prochaine encyclique qui est annoncée de Léon XIV va porter sur les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. C'est aussi, je dirais, porteur d'avenir, aussi bien positif que négatif, que l'ont été les questions d'environnement qui avaient été abordées par Laudato Si. Voilà. Je vais terminer là-dessus, en espérant vous avoir trop ennuyé, parce que c'est un peu aride. Mais c'est le type de thème sur lequel nous réfléchissons, nous essayons de comprendre ce qui se passe, nous essayons de voir un petit peu, quand je vous parlais du smartphone, j'ai un smartphone moi aussi, hein, comme tout le monde. Je sais très bien dans quelles conditions il est produit, et pourtant je ne peux pas m'en passer. Mais être conscient et savoir qu'on n'est pas obligé de faire des selfies à table pour envoyer ce qu'on a mangé, faire le tour du monde pour aboutir dans un data center qui va consommer des mégawatts, avant veux-tu, en voilà, qui va consommer des centaines de milliers de litres d'eau alors qu'on sait que l'eau va devenir rare, je pense que ça mérite réflexion et c'est ce que nous essayons, nous, de faire à notre niveau. Merci. Je voudrais maintenant que vous repassiez un peu à l'échelle, un peu au-dessous, Je voudrais que Jean-Jacques Romaté puisse vous parler des expériences concrètes que nous vivons, tous autant que nous sommes, dans nos activités respectives.
Je ne vais vous parler que d'une seule expérience, c'est la mienne. Alors pourquoi j'ai souhaité ce témoignage? Parce que je dois beaucoup à Mario Solano, dont le nom a été plusieurs fois prononcé. Mario Solano a été, quand je suis un directeur d'hôpital, Mario Solano a été mon consultant, il est devenu mon président et nous sommes devenus amis. Et il a beaucoup compté dans ma façon de penser le management de l'hôpital. Et donc je vais prendre deux, trois exemples, non pas pour dire qu'ils sont exemplaires, parce qu'il n'y a vraiment rien d'exemplaire, mais ils sont à titre d'exemple, des éléments que nous avons pu réfléchir ensemble. Alors, je voulais aussi témoigner d'un point, pour moi, qui est très important. C'est que, donc, j'ai été très longtemps fonctionnaire et que le fonctionnaire, Jean-Bernard a été comme moi, est soumis au devoir de... ou Henri, il est soumis au devoir de neutralité. Et donc, soumis au devoir de neutralité, il ne peut pas exprimer sa foi. Et en tout cas, il ne peut pas la proclamer... Et il doit être, je dirais, particulièrement attentif à ne pas mordre sur, je dirais, ce principe qui est celui de la laïcité, qui n'empêche pas, sauf chez certains extrémistes, qui n'empêche pas la foi de s'exprimer, mais qui organise la possibilité que la foi personnelle puisse se dérouler. Mais quand on exerce des fonctions d'autorité, il n'est pas facile de distinguer ce à quoi l'on croit et ce que l'on fait. Je dirais même, on ne peut pas le faire. Mais moi, je peux témoigner qu'on peut le faire sans véritable difficulté, à condition, évidemment, de ne pas être provocant, de ne pas se promener dans la cour avec une pancarte en disant « je suis un catholique pratiquant », auquel cas, évidemment, les choses ne se passeront pas très bien. Et donc, on peut le faire avec un peu de subtilité, un peu d'habileté. Et la pensée sociale de l'Église, quand on est dirigeant d'institutions comme des hôpitaux, de grands hôpitaux, elle ne peut pas ne pas nourrir la pensée de celui qui gère. Je vais essayer de prendre quelques exemples. C'est absolument impossible. Et donc, on peut aborder la pensée sociale de l'Église dans son management sans passer son temps à dire « c'est la parole de Léon XIII » ou celle on n'est pas obligé de... On peut le faire avec un tout petit peu de subtilité. Alors, pourquoi l'hôpital est en lui-même très intéressant? C'est parce que l'hôpital, il a été fondé par, l'hôpital français. C'est pas vrai côté Pays Basque, côté espagnol, c'est pas vrai côté anglais, c'est vrai chez les Allemands, c'est vrai aussi chez les Italiens. Les hôpitaux ont été fondés par les maires et les évêques, par les bourgeoisies, et donc l'hôpital, jusqu'à la guerre de 40 à peu près, a été le fruit de la charité. Les médecins venaient exercer sans rémunération, et donc ils se rémunéraient l'après-midi du fait même qu'ils étaient charitables le matin, et donc leur réputation montait, ils allaient gagner leur vie l'après-midi. Tout ça a rapidement évolué, et on s'est retrouvé, et évidemment, les personnels soignants des hôpitaux ont été pendant très longtemps les communautés religieuses. Moi, j'ai vécu le départ des dernières religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, Et quand une religieuse partait, il fallait la remplacer par trois soignants, parce qu'elles étaient là 24 heures sur 24. Et ce n'était pas la peine de leur demander d'expliquer sur pourquoi elles étaient là. Elles étaient là pour la charité. Alors la charité, c'est un terme qui a été, évidemment, qui est dans le domaine de la laïcité, n'est pas un terme qu'on utilise. On utilise de façon plus neutre celui de solidarité. Mais la solidarité, c'est une partie, évidemment, de la charité. Et donc, dans l'hôpital, on s'est retrouvé, à partir des années 50, on s'est retrouvé devant, je dirais, toute cette dimension chrétienne qui, petit à petit, a disparu et qu'il a fallu remplacer par autre chose. Donc, il y a eu des grandes lois, 58, la création des CHU par le général de Gaulle, 1970, la loi hospitalière était une loi d'un grand ministre qui est tombé dans une mare qui s'appelait Robert Boulin. Et on a essayé de remplacer, je dirais, l'histoire, la charité, par exemple, les principes du service public. Et quand on est directeur d'hôpital, on est chargé de faire vivre ces principes. Alors je vais les prendre très rapidement, mais pour montrer qu'ils sont apparemment évidents, anodins, mais ils ne le sont pas réellement. Il y a essentiellement quatre principes du service public. Le premier, c'est la liberté. Évidemment, quelqu'un accepte de se faire soigner, il y va librement, et celui qui soigne réciproquement. Est-ce que c'est si simple ? À l'hôpital de Bayonne, nous avons vécu trois grèves de la faim. Je peux vous dire que la question de la liberté, lorsque vous êtes confronté à des grèves de la faim, c'est pas simple. À quel moment commence la liberté du patient qui veut ou ne pas se faire soigner? À quel moment commence la non-assistance à personne en péril? Je peux vous assurer qu'il y a de quoi faire quelques thèses sur le sujet. Deuxième principe, qui paraît aussi d'une grande évidence, l'égalité. Mais l'égalité d'accès de tous. Est-ce que, dans les faits, c'est quelque chose de naturel d'accueillir dans l'hôpital le PDG ou dans la même salle d'attente où le PDG ou le SDF qu'on a ramassé? Dans la vie de tous les jours, il faut beaucoup de travail avec les équipes pour arriver à vivre ce principe. Troisième principe, la continuité. La continuité, c'est il faut fonctionner 24 heures sur 24. Il faut fonctionner 365 jours par an. Avec les anciennes générations, c'était une évidence. Moi, je n'ai jamais rencontré, même dans les grèves les plus dures, je n'ai jamais rencontré de difficultés avec un syndicat pour avoir un service minimum. Jamais. Et puis voilà que depuis quelques années, certains ont inventé les arrêts maladie multiples. Ça n'a l'air de rien, mais c'est en train de casser complètement la notion de continuité. Quand vous êtes directeur d'hôpital et que vous avez besoin de mettre un soignant devant le patient, si tous les soignants ont un arrêt maladie en même temps, chose qui n'arrivait jamais, et donc on voit qu'avec de nouvelles générations qui ne sont pas ni meilleures ni pires que les précédentes, mais il y a des changements majeurs. Celui-là, par exemple, est un changement majeur. Il n'y avait jamais de problématique sur la continuité, et il y a aujourd'hui problématique sur la continuité. Le quatrième principe, c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire que le service public se transforme en permanence, non pas pour ce que veulent les fonctionnaires eux-mêmes, en disant « nous voulons garantir nos droits », mais pour ceux dont les patients ont besoin. Et ce que, avec les techniques de la médecine, je dirais aujourd'hui, change très rapidement. On dit on a supprimé des lits dans les hôpitaux, c'est absurde. Vous avez entendu beaucoup d'âneries sur ce sujet. Ça n'est pas vrai, sauf pendant la période Covid. C'est qu'on a transformé beaucoup de lits pour en faire des hôpitaux de jour, parce qu'aujourd'hui, on peut faire un hôpital de jour. Il y a des gens dans cette salle qui ils le savent, qui l'ont vécu, ce qu'on faisait autrefois en restant 15 jours dans l'hôpital. Donc l'adaptabilité, c'est changer notre façon de faire. Et donc la doctrine sociale de l'Église, c'est elle était aidante pour un dirigeant pour, je dirais, ramener chacun au sens de sa mission. Et la question du sens est, je dirais, le sujet qui peut unir le plus dans la réflexion entre les médecins, les soignants, les managers. Et le seul petit exemple que je voulais donner, que je dois à Mario Solano, c'est que dans un des CHU que j'ai dirigé, j'ai pu mettre en place une décentralisation complète de l'hôpital, c'est-à-dire en appliquant l'un des principes de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire celui de la subsidiarité. Et la subsidiarité, je me suis dit, c'est un peu techno, hein, mais la subsidiarité, c'est de laisser faire par ceux qui le peuvent et qui le doivent ce que d'autres veulent se prendre à la tête. Celui qui veut être dictateur dans toute institution, il peut le faire. Moyennant quoi, il enlève tout ce que les uns et les autres peuvent faire. Eh bien, on a décentralisé l'hôpital. Mario Solano m'a appris que la comptabilité analytique, elle permettait d'analyser finement, elle pouvait faire parler les chiffres. Mais faire parler les chiffres en soi, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, pour donner du sens et pour pouvoir réfléchir au parcours des patients, par exemple, en partageant les données de gestion avec les médecins, ça peut commencer à avoir du sens. Et je peux dire que je l'ai vécu, ça a d'ailleurs été mon plus grand plaisir professionnel, qui a été celui de décentraliser 90% de l'hôpital, recettes et dépenses, à une quinzaine de pôles dirigés par des équipes médicales, soignantes et managériales en même temps, c'est-à-dire qui permettait, et c'est à ça que je voulais venir, qui permettait de réfléchir en mixant les cultures. La culture du médecin, c'est pas du tout celle du manager. C'est pas non plus celle du soignant, de l'infirmière. Eh bien, pour gérer bien une institution, il faut une partie du médical, il faut une partie de soignant, mais il faut aussi une partie du managérial, parce que de toute façon, nous sommes dans une société où nous vieillissons de plus en plus, les recettes dont nous disposons sont comptées, et donc on se retrouve devant ce hiatus, hein, c'est-à-dire on a toujours besoin de plus d'argent pour des gens qui vieillissent de plus en plus, mais par définition, les moyens sont limités et donc il faut gérer. Il faut gérer comme on a besoin de gérer sa propre famille. Mais pour gérer sa propre famille, c'est déjà pas très facile. Il faut s'entendre à deux, à trois ou à quatre. Déjà, quand il faut s'entendre avec plus d'un, c'est difficile. Deux, ça devient difficile. Trois, je n'en parle pas. Alors, quand vous êtes dans une institution de 10 000 ou de 15 000 personnes, il faut arriver à trouver des langages communs. Il faut arriver à partager, c'est-à-dire que le médecin intègre un petit peu de la réflexion du directeur, que le directeur comprenne ce qui se passe dans la tête du médecin et que le médecin considère ce qui se passe dans la tête et dans le comportement de l'infirmière, qui n'est pas comme autrefois une exécutante automatique. Elle a aussi sa vertu et sa façon de faire. Et donc, en utilisant ce que Mario m'avait appris et en essayant d'appliquer la doctrine sociale de l'Église, on arrive, oui, à la mettre en pratique. Alors, bien, mal, après, à chacun d'apprécier. Mais moi, le message que je voulais porter, c'était que même dans un pays où on met la laïcité comme les principes de notre République, on peut, sans aucun problème, je dirais, vivre sa foi, à condition de ne pas faire n'importe quoi, à condition de ne pas être ostentatoire, et à condition, je dirais, tout simplement de respecter les autres. Et la question du respect et la question de la neutralité sont au cœur aujourd'hui de l'hôpital. Quand vous trouvez avec des patientes, par exemple, qui disent « Moi, je ne veux pas être soigné par un docteur homme », ce qui est des choses maintenant arrivent assez fréquemment avec des populations d'origine musulmane, on se retrouve vers un problème extrêmement difficile à régler. On ne sait pas comment le régler. Quand vous vous trouvez avec un témoin de Jéhovah qui dit « Moi, je ne veux pas que mon fils, qu'on fasse une transfusion sanguine à mon fils, moi je l'ai vécu, j'ai dû obtenir la déchéance de paternité du père pour pouvoir sauver le fils. Donc la question de la neutralité, ce n'est pas des termes, c'est des choses très concrètes, très pratico-pratiques, et on peut les vivre en chrétien, avec un tout petit peu de précaution.
Moi, j'ai choisi de vous parler d'un personnage qui s'appelle Enrique Ernesto Shaw, S-H-A-W, vous l'avez là en photo, qui a la particularité d'être un entrepreneur qui a évolué et qui va être béatifié. Donc prochainement, il est à, comment dirait, à l'ordre du jour, confirmé donc par le pape actuellement. Cet homme est né en 1921 et il est mort en 1962, 42 ans. Il est né à Paris. Son père était dans les milieux industriels, mais il est argentin et donc il est retourné donc très vite en Argentine, où il a été élevé, où là-bas donc il est devenu homme d'affaires et il est reconnu vénérable donc de l'Église catholique. Il est issu d'une famille donc de parents liés donc à l'industrie et à la finance. Son père étant d'origine allemande et sa mère d'ascendance écossaise. Il a en 1925, c'est-à-dire il avait 4 ans hein, quand il a perdu sa mère. Donc, de retour aux États-Unis où ils ont vécu, il a fait là-bas donc toutes sa formation, son école, son éducation. Il a choisi, contre l'avis de son père, de rentrer dans la marine. Et donc, il a choisi donc d'entrer dans la marine. Il y a fait carrière donc quelque temps, en devenant même lieutenant de frégate, ce qui n'est pas rien. Après la Seconde Guerre mondiale, il quitte donc là l'armée et travaille dans une cristallerie importante, hein, une cristallerie toujours en Argentine, hein, Rigolo, hein, en prononciation espagnole c'est Rigolio, dont il deviendra directeur général. Et c'est là où particulièrement il a fondé l'Association chrétienne des dirigeants d'entreprise. Alors ça doit parler à quelques-uns qui ont entendu parler des EDC, etc., hein, des dirigeants commerciaux. Nous sommes dans les années 1930 et 45. C'est là où les choses donc se passent. À travers justement sa vie chrétienne, catholique, il rencontre Joseph Cardjean, qui est le fondateur de la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. C'est là où il vit une véritable conversion et il décide quelque part de vivre son action catholique argentine beaucoup plus intensément, en appliquant justement la doctrine sociale de l'Église qu'il a essayé d'appliquer hein, donc au fur et à mesure dans sa vie. Je rappelle qu'il est mort en 1962, il avait 41 ans. Il a établi par exemple le fonds de pension d'assistance maladie pour fournir des services médicaux aux Argentins, pour soutenir financièrement donc les familles où il y avait donc des malades ou qui avaient la naissance d'un nouvel enfant. Parce que la cristallerie, quand il a quitté pour se consacré à cette action catholique dans sa vie. Il a vendu, si mes souvenirs sont bons, c'est un groupe américain qui a racheté cette cristallerie, qui était importante, où il y avait 2000 salariés. À la suite justement des différentes actions sociales qu'il prend, donc il est tellement dérangeant qu'il est arrêté il subit donc, il se heurte l'opposition du péronisme, donc, et il est arrêté. Il est envoyé en prison. En prison, il y reste quelque temps, quand même 5 ou 6 ans, puisque c'est de 55 à 61, grosso modo, qu'il est en prison. Il aide ses camarades de détention en fournissant des vivres que sa famille lui envoie. C'est là où il prend encore, je dirais, un tournant supplémentaire. C'est que il continue à s'impliquer dans l'aide humanitaire de l'Europe et de l'après-guerre. En 1957, il est atteint d'un cancer, mais il continue d'écrire et de faire ses conférences. Il reçoit, dans sa maladie, atteint d'un cancer, une transfusion sanguine dans les débuts d'année 62 pour essayer de le soigner, sans donner par l'ensemble du personnel de l'hôpital et de ses collègues. Avant de mourir, Shaw déclare qu'il est content et reconnaissant de savoir que le sang de ses collègues coule dans ses veines. Malgré le risque, il entreprend un pèlerinage à Lourdes au cours de l'année 62. Mais c'est là où, le 27 août 62, dans un hôpital de Buenos Aires, il décède. À la vue de son action, de sa façon d'avoir mené sa vie, c'est à ce titre-là, je dirais que quelque part a été déclaré vénérable et aujourd'hui béatifié. Il fait partie du lot de béatification, où moi, dans ce que j'avais dans mes données, où il y avait 13 Espagnols et un Argentin. Il semblerait qu'il y ait dans ce wagon encore plus de béatifiés. Déjà d'Espagnols béatifiés, puisque ce sont des résistants et des martyrs de la guerre d'Espagne, c'est ça ?
Des prêtres et des religieux.
Des prêtres et religieux, voilà. Donc, en découvrant Henri Cochot, puisque je ne connaissais pas, je nous ai reconnus un petit peu dans un peu ce qui nous porte notre groupe et notre philosophie, je dirais, à travers notre quotidien. J'ai envie de mieux connaître encore véritablement ce qu'il est, ce qu'il a été, ce qu'il a fait. Ça aussi, ça pourra faire le chapitre d'une de nos réunions, d'approfondir de ce qu'il a fait. Alors, ce qui a été retenu, j'ai oublié un point essentiel, mais qu'il faut citer, ce qui a été retenu aussi, je dirais, dans la béatification, c'est la reconnaissance d'un miracle dont il serait à l'origine. Un enfant fait une chute de cheval et prend un coup de sabot important à la nuque, lui créant des traumatismes crâniens importants. Il est soigné, opéré maintes fois, sans rien. Enrique Shaw étant tellement porté par les gens en Argentine, on fait une invocation à Enrique Shaw pour que l'enfant puisse guérir. Malgré toutes les expertises qui ont été faites, etc., par la suite, cet enfant a guéri sans aucune explication, et des avis médicaux. Et il va très bien, précisons que le miracle attribué est reconnu, et il vit très bien à l'heure actuelle. Voilà.
Vous venez d'entendre des extraits d'une rencontre publique organisée par les Amis de Belloc autour de la pensée sociale chrétienne, un enregistrement réalisé le 8 mai 2026 au monastère des communautés bénédictines à Urte.